Le journal Loïc Barrière. De nouvelles manifestations contre la répression au Soudan. En France, le parquet antiterroriste ouvre une enquête après l'assassinat d'une Française au Maroc. Le retour au Liban de Saad Hariri, le leader du courant du futur, a été reçu par le Premier ministre Najib Mikati. Les députés français ont adopté une résolution qui dénonce le génocide des Ouïghours par la Chine. L'appel de Mohamed Moussaoui aux responsables politiques français, il leur demande de s'abstenir de tout amalgame sur l'islam et les musulmans lors de l'élection présidentielle. Enfin, entretien avec le diplomate et écrivain Gilles Gauthier pour nous parler du poète algérien Jean Sénac à l'occasion de la diffusion à l'Institut du monde arabe du film « Le soleil assassiné ». Au Soudan, des milliers de manifestants ont défilé ce jeudi à Khartoum pour une journée d'hommage aux martyrs. Des rassemblements organisés alors que 72 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre depuis le coup d'état militaire en octobre. En France, le parquet antiterroriste ouvre une enquête sur l'assassinat d'une touriste française. Cela s'est passé samedi au Maroc. Cette femme de 79 ans a été tuée sur un marché de Tiznit à l'aide d'une arme blanche. Un suspect âgé de 31 ans a été arrêté le jour même à Agadir. Agadir où cet homme est également soupçonné d'avoir tenté d'assassiner une ressortissante belge. On apprend que le suspect avait été interné pour des troubles psychiatriques en octobre. Le retour au Liban de Saad Hariri, l'ancien Premier ministre et chef du courant du futur, se trouvait depuis plusieurs mois à l'étranger, en retrait de la vie politique libanaise. Il a notamment été reçu par le Premier ministre Najib Mikati. Il a par ailleurs rencontré le Moufti de la République. Le président du Conseil français du culte musulman, dont le mandat a pris fin mercredi, appelle les candidats à l'élection présidentielle à éviter des amalgames préjudiciables à notre unité et à notre cohésion nationale. Un appel récemment publié dans le quotidien Le Monde, entretien avec Mohamed Moussaoui.
J'ai voulu rappeler que, même si le principe de la laïcité appelle à une certaine neutralité, nous pouvons rappeler quand même le principe. Et parmi ces principes, évidemment, c'est la volonté du politique d'être au service de tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance religieuse. Et je pense que tous les débats qui peuvent créer une forme de division au sein de notre société sont à éviter. Les hommes politiques et les femmes politiques qui aspirent à la gestion des affaires publiques de notre pays doivent projeter l'ensemble des concitoyens dans un avenir meilleur en répondant à leurs attentes dans l'ensemble et ne pas se focaliser sur une partie de nos concitoyens et de leur religion. Parce qu'on est forcé de constater que malheureusement, comme pratiquement dans toutes les élections, l'islam, il fait débat. Lorsqu'on se compare à un pays voisin, l'Allemagne, les observateurs ont observé que le mot islam a été rarement prononcé lors des grands débats de ces élections. Et je pense que même si le contexte français et le contexte allemand ne sont pas comparables, nous avons tous en mémoire les attentats terroristes abjects qui ont endeuillé, ont ensanglanté notre pays par des acteurs, par des auteurs, des terroristes qui se réclamaient de notre religion. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison de faire en sorte que cette religion soit considérée comme la source ou la cause de tous les maux de notre pays.
Et vous estimez que la question de l'islam est instrumentalisée par certains candidats à l'élection présidentielle et parallèlement, vous estimez que les candidats doivent bien entendu se préoccuper des dérives de l'extrémisme se réclamant de l'islam.
Tout à fait, je pense que c'est indéniable. Nous-mêmes ne sommes pas dans le déni. Il y a une réalité. Ce terrorisme, cet extrémisme qui se réclame de l'islam est une réalité. De nombreux attentats ont été commis, de nombreux de nos concitoyens ont été victimes de ce terrorisme, y compris parmi les musulmans de France. Et je pense que la lutte contre ce fléau devrait être notre mission à tous, notre devoir à tous. Mais on ne peut pas non plus verser dans un discours essentialiste qui ferait de tous les musulmans de France comme des dangereux potentiels. Je pense que l'immense majorité de nos concitoyens de confession musulmane aspirent à vivre en paix, de le respect avec leurs concitoyens et que leur tradition religieuse ne soit pas un objet politique mais plutôt une affaire privée, spirituelle des citoyens qui ont cette confession. Je pense que également que parfois le fait de multiplier ces débats sur la culture ou sur la religion musulmane pourrait malheureusement amener un certain nombre de, notamment parmi les jeunes, à verser dans ce que les sociologues appellent le renversement de stigmate, c'est-à-dire quelque part dire ce que vous me reprochez, si vous me reprochez d'être musulman pratiquant, ben je vais en faire une fierté. Et parfois, ça pourrait même donner lieu à des attitudes, des comportements qui n'ont rien de spirituel en fait. Ils sont dans l'apparence religieux, mais en fait foncièrement identitaires. L'islam devient de fait, malheureusement, une identité, alors qu'il n'est pas une identité. Il est une religion à pratiquer par des millions de nos concitoyens. Elle doit rester dans ce statut.
C'est pourquoi vous soulignez que les préoccupations des citoyens français de confession musulmane sont d'ordre large et concernent de multiples aspects qui ne sont pas liés à leur confession.
Tout à fait. Je pense qu'il est une évidence que les attentes de nos concitoyens, quelle que soit leur religion, sont d'ordre divers. Il y a bien sûr des attentes au niveau économique, au niveau social, au niveau sanitaire. Il y a plusieurs défis à relever. Et nous pouvons les relever ensemble, pas dans la division. Et ceux qui considèrent que la cohésion nationale passe par une uniformisation, un syncrétisme, et de demander aux citoyens de renoncer à leur identité, aux convictions religieuses ou philosophiques, font une grande erreur. Je pense que nous devons vivre ensemble dans la confiance et le respect en intégrant nos histoires, nos parcours et nos identités plurielles, et que nous intégrons également nos convictions religieuses. Mais vouloir demander aux citoyens de confession musulmane de renoncer à leur foi, à leur tradition, me semble d'abord contraire au principe de vivre ensemble et de laïcité qui donne le droit à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix. C'est le principe même fondamental de ce qui fait que nous sommes une seule nation, une seule communauté, et nous essayerons donc de vivre, en tout cas les citoyens de confession musulmane l'ont prouvé par les gestes et par leur action, par leur comportement, qui sont dans leur immense majorité des citoyens qui veulent que notre pays vive en paix, dans la prospérité, et ils s'engagent dans tous les domaines de la vie en société.
Et il ne faut pas enfermer les citoyens et les fidèles dans leur confession. C'est aussi ce que vous dites, et c'est le piège, selon vous, qui est tendu par certains candidats.
Tout à fait. Je pense que le fait de renvoyer les musulmans à leur dimension religieuse, alors que elle devrait être une partie de leur même, c'est une partie qui leur appartient, et d'oublier qu'ils sont d'abord des citoyens français et qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens français, est une erreur. Parce que la stigmatisation, l'histoire l'a montré clairement, que lorsque des personnes sont mises à l'index, et s'ils ont le sentiment d'être mis à l'index et qu'ils sont discriminés, malheureusement la discrimination entraîne l'exclusion, et l'exclusion entraîne la radicalisation. Je pense que nous devons envoyer un message fort à nos concitoyens de confession musulmane qui sont des citoyens comme les autres. Leur religion, elle fait partie de leur vie personnelle, et qu'il y a une loi, une seule loi, celle de la République, qui nous englobe tous, une seule dimension qui nous englobe tous, c'est la citoyenneté française.
Mohamed Moussaoui, au micro de François-Xavier de Calonne. Les députés français ont adopté une résolution qui dénonce le génocide des Ouïghours par la Chine. Le patron du PS, Olivier Faure, a exprimé son horreur face à la machine implacable qui vise, selon lui, à l'éradication culturelle et biologique d'un peuple. Les députés de la France insoumise se sont quant à eux abstenus. La députée Clémentine Autain a précisé qu'elle préférait le terme de crime contre l'humanité à celui de génocide. C'est toujours un moment angoissant pour les élèves de terminale. Parcoursup a ouvert, comme chaque année, l'inscription des futurs bacheliers et la formulation des vœux. La plateforme est quasiment le seul moyen de postuler en première année dans les établissements de l'enseignement supérieur. La mobilisation des enseignants était en baisse ce jeudi pour la deuxième journée de grève depuis le début de l'année. Le taux de grévistes était de moins de 2%. 5% ce 20 janvier, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants contestaient la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Plus de 104 000 demandes d'asile ont été enregistrées en France en 2021, un chiffre donné par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une hausse de 28,3% par rapport à 2020. L'Institut du monde arabe projette ce jeudi soir Le Soleil assassiné, un film qui porte sur la vie du poète algérien Jean Sénac, resté en Algérie après l'indépendance. Entretien avec le diplomate Gilles Gauthier, il a connu Jean Sénac en Algérie dans les années 60.
Jean Sénac s'est situé d'emblée dans le cadre des intellectuels algériens. C'est-à-dire, bien sûr, bien entendu, qu'il y avait une grande amitié et solidarité avec les intellectuels français contestant la colonisation, mais Jean Sénac s'est tout de suite, dans son combat, considéré comme poète algérien d'origine française, si l'on peut dire d'ailleurs, parce que son origine n'était pas tellement française, sa mère était d'origine espagnole et son père était inconnu. Et donc Jean Sénac a fait ce choix dès le début de la guerre.
Et quelle a été son importance aussi en tant que poète ?
Alors, son importance a été considérable, notamment à travers une émission de radio qui s'appelait Poésie sur tous les fronts, et dont j'espère, j'aimerais qu'un jour on puisse, avec la radio algérienne, essayer de retrouver ça et de le rééditer éventuellement. C'était des émissions fantastiques qui étaient, je l'ai vu les préparer, c'était assez amusant parce que Jean Sénac donnait une impression d'être brouillon, il préparait ses émissions apparemment au dernier moment, mais elles étaient déjà dans sa tête et elles étaient presque toujours brillantes. Ses émissions étaient écoutées partout, dans tout le pays. Les jeunes, tous les jeunes étaient plus ou moins poètes, enfin comme tout le monde, comme dans tous les pays du monde, enfin peut-être pas maintenant, mais en tout cas à notre époque, et tous les jeunes en Algérie étaient suspendus à la radio le jour de cette émission et lui écrivaient ensuite. Et lui écrivait, lui envoyait des poèmes. C'était fréquent qu'il reçoive des poèmes de jeunes et un certain nombre de poètes algériens ont commencé comme ça. Non, il a joué un très grand rôle. Bon, avant cette émission de poésie, il avait joué un grand rôle aussi. Là, j'ai moins connu cette époque. Moi, j'ai connu Jean Sénac en 1968, donc 5 ans avant sa mort, et je l'ai connu de près. On était très liés jusqu'à son assassinat. J'étais en vacances. J'étais avec lui à Oran et en juillet. Et il a été assassiné fin août, le 1er septembre. Je crois.
Et qu'est-ce voilà. qu'il reste aujourd'hui de Jean Sénac, ce poète assassiné, le soleil assassiné, pour reprendre le titre du film de Abdelkrim Balloul?
Vous savez, les poètes, les écrivains passent parfois par une époque, leur œuvre passe par une époque de silence. Peut-être actuellement, je ne sais pas si on parle beaucoup de Jean Sénac. Son œuvre est une grande œuvre. C'est une œuvre de poète accomplie. Elle est, à mon avis, appelée à rester. Maintenant, est-ce que en Algérie actuellement, elle a encore des échos? Je suis trop éloigné de l'Algérie, puisque ma carrière m'a amené par la suite dans le monde arabe, dans beaucoup de pays, mais moins souvent, enfin en Algérie une seule fois, mais c'est très lointain, c'était en 80, j'étais comme diplomate en Algérie en 84-87, donc après mes premiers séjours dans les années 60, là où je suis resté 5 ans, donc je ne sais pas ce que. Maintenant, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Je ne suis qu'incapable de dire si la jeunesse est toujours intéressée par la poésie et par la poésie de Jean Sénac. Je ne sais pas.
Et vous, qu'est-ce que vous retenez de sa personnalité, justement, pour nous le faire connaître davantage? On a une image aussi de quelqu'un qui vivait humblement, qui était ouvert, qui était disponible pour les autres.
Il vivait humblement aussi de force, parce que, comme il me disait un jour, il se mettait en colère contre moi, enfin en colère comme ça, il secoué, disons, en me disant tu parles de littérature, mais la littérature, tout de même, c'est une assaise. Le mot qu'il avait prononcé, c'est une assaise. Et regarde, me montrer ses dents qui étaient cariées, je ne peux pas me faire soigner mes dents. Mais je suis libre. C'est-à-dire, il avait cette conception du poète qui était entièrement sacrifié, une position presque un peu romantique. Enfin, le poète qui est tout entier à son œuvre, mais l'œuvre du poète dépasse la poésie, puisque c'est aussi une œuvre révolutionnaire, c'est aussi un appel au changement, un appel à une mutation des existences, à la libération des corps, à la libération des désirs, c'est un tas de choses. Le poète était aussi dans la tradition aussi peut-être des poètes maudits d'autrefois. C'était un chantre, c'était celui qui prévoyait un avenir à très long terme, qui ouvrait les portes du monde. Enfin, il y avait tout ça chez lui, il en était persuadé. Et sa vie était extrêmement modeste. Il habitait dans un petit appartement, mais il fallait passer par la cave pour y aller. Donc on pouvait dire qu'il habitait au fond d'une cave, et c'est là qu'il a été tué d'ailleurs.
Le diplomate Gilles Gauthier, il vient de publier un Si proche ennemi aux éditions Rive-Neuve, projection du soleil assassiné à l'Institut du monde arabe dans le cadre du colloque international opposition intellectuelle à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Vos rendez-vous sur Radio Orient et Si on en parlait, ce jeudi à 19h et 23h, le thème de l'émission, montée de l'abstention vers l'extinction du vote. Les invités d'Alexis Bachelet sont Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay, et Tristan Haute, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille. Et puis à 21h, rencontre sur Radio Orient avec Joseph Dichy, professeur d'arabe, éditeur, traducteur et président de l'association Clé Monde Arabe. Il présente les nuits de la lecture vendredi, samedi et dimanche soir au théâtre Graines de Star Comedy Club à Villeurbanne, au programme des lectures de textes et de poèmes liés au monde arabe, rediffusion de cette émission vendredi à 10h. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.